le Seigneur. Et je vous invite à, sans plus tarder, à tourner dans vos Bibles, dans l'Évangile de Jean. Et au chapitre 8, on va continuer notre série sur « Demeurer dans la parole de Dieu ». Et ce matin, on va regarder le thème « Connaître la vérité ». Et la vérité vous affranchira. Prions, s'il vous plaît. Notre Père, je te prie de garder nos cœurs, nos pensées en toi ce matin. Donne-nous d'avoir les yeux fixés sur toi, d'avoir les yeux fixés dans ta parole, d'avoir les yeux fixés, Seigneur, au bon endroit, pour que nous puissions avoir tes pensées, pour que nous puissions, Seigneur, commencer cette année dans la bonne direction. Alors parle à nos cœurs, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, qu'on ne soit pas juste des gens en train d'écouter, de se faire chatouiller les oreilles ou le cœur avec la parole, mais qu'on puisse vraiment la laisser pénétrer dans nos cœurs, dans nos vies, afin d'en être transformés et ainsi de te glorifier et d'être ce que tu nous demandes d'être, le sel de la terre et la lumière du monde. Alors Seigneur, merci ce matin de nous aider à nous nourrir de ta parole et, Seigneur, à faire l'œuvre de bons évangélistes, là où tu nous places, à des fidèles chrétiens, là où tu nous places et à t'honorer en toutes choses. Nous te le demandons au nom de Jésus et je te prie pour ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la peine d'une manière ou d'une autre, de les réconforter ce matin, ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, qui auraient aimé être là avec nous ce matin. Merci de les consoler, merci de les visiter de par ta présence et de les bénir dans le beau nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais que vous puissiez ouvrir avec moi vos Bibles et au verset 30 du chapitre 8 de l'Évangile de Jean. Il est écrit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Vous savez que le mot croire est un des mots clés de l'Évangile de Jean. Je crois que c'est 98 fois présent. Le verbe. Et Jésus, l'évangéliste Jean, a pour but de manifester dans le récit de la vie de Jésus l'effet de son enseignement. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ceux qui croient, croient de plus en plus, et ceux qui ne croient pas, malheureusement, s'endurcissent. Alors, retenez cela un petit peu, ça va nous aider ce matin. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves. De personne, comment dis-tu, vous deviendrez libres. » « en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham et vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient point dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché si je dis la vérité? Pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors on va continuer un petit peu notre série sur demeurer dans la parole. et regarder ce texte un peu plus en détail. Alors, nous allons surtout regarder le verset 31 et verset 32, où il dit « Il est aux Juifs qui avaient cru », donc des gens qui commencent à s'attacher à Jésus. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et un peu plus loin, au verset 36, Jésus dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Le terme « demeurer » ici est un terme très fort qui a référence au lieu, au temps ou à l'état, la condition. Excusez un petit peu cette introduction étymologique par ces définitions, mais si on l'applique aux croyants, une fois qu'on demeure dans la parole de Dieu parce qu'on a découvert le Seigneur Jésus-Christ, alors on est dans le royaume de Dieu, né de nouveau. C'est un lieu sûr et qui reste en permanence notre vrai lieu de résidence. Demeurer dans la parole, c'est demeurer en Christ et c'est demeurer dans le royaume de Dieu. Ça a à faire autant. Et ça implique tout simplement que dorénavant, le croyant a une nouvelle dimension. Il vit pour l'éternité. Avant, il ne savait pas qu'il était mort dans ses péchés, mort vis-à-vis de Dieu. Et lorsqu'il a été régénéré, alors il vit, mais c'est une vie avec un grand V. La vie éternelle lui a été donnée et il demeure désormais dans cette éternité. Et puis, quelque part, en demeurant dans la parole, il demeure dans son salut. Un salut qui ne peut pas se perdre, un salut que Dieu lui a donné, il n'y a pas de changement d'état possible. Notre résidence est permanente, on fait partie du royaume de Dieu, on fait partie de l'éternité et on réside continuellement, spirituellement, parce qu'on est un enfant de Dieu. On est né de nouveau, on appartient à Dieu. Donc quelque part, un commentateur a dit, j'aime bien cette phrase, je vous la lis, c'est Frédéric Godet qui a dit « Par cette image, demeurez dans, la parole de Jésus est comparée à un sol plantureux dans lequel la vraie foi doit s'enraciner toujours plus profondément pour prospérer et fructifier. » Une fois qu'on commence à écouter la parole de Dieu, à croire, alors Dieu s'attend à ce qu'on approfondisse notre foi dans cette parole pour que notre vie porte du fruit et du fruit qui demeure. Et dans ce sens-là, on peut dire que celui qui demeure dans la parole devient vraiment un disciple. Alors, Jésus, tout d'abord, on va mentionner ce verset, puisqu'on va parler de vérité et de liberté, puisqu'il est écrit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors, j'aimerais vous poser une question ce matin. Est-ce que vous êtes un affranchi du Seigneur? Et un affranchi de l'esclavage du péché? Et vous dire que la seule façon d'être un affranchi, c'est de connaître Jésus-Christ. Jésus lui-même, alors qu'il était dans la synagogue, a enseigné, et en Luc 4, 18, il a dit « L'Esprit du Seigneur », c'est une référence et une prophétie que l'on trouve dans le livre d'Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Non? Oui? Vous pouvez sourire ce matin, hein? Commencez la bonne année en pensant que Jésus vous aime. Pour proclamer aux captifs la délivrance, c'est merveilleux. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue pour envoyer libres les opprimés. Je me souviens d'une jeune femme nouvellement convertie qui était dans notre église au Québec et qui racontait par des frayeurs qu'elle avait, elle se sentait constamment attaquée par l'ennemi. Elle se tenait devant la porte de sa maison, même avec une arme pour essayer de combattre éventuellement l'ennemi. Et le jour où elle a compris que c'était Satan qui l'a trompée, que c'était un mensonge, et qu'il suffisait de se confier en Jésus, le mal a disparu. Jésus est venu délivrer les captifs. Dieu nous appelle à la liberté. Alors j'aimerais vous poser une question, est-ce que vous êtes sûr d'être sur le chemin de la liberté? Vous savez, beaucoup de gens cherchent la vérité dans toute espèce de religion, de philosophie, de science. On veut la vérité, quelque part, parce qu'on veut aussi la liberté. Mais quelle est la vraie liberté? Alors ici, dans ce texte, il est question d'un affranchissement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aimerais vous montrer l'équation de la vérité telle que c'est décrit dans ces versets. L'équation de la vérité, ou on pourrait l'appeler le chemin de la vérité. D'après ce verset, tout d'abord, c'est de croire en Jésus. Et on va rappeler un petit peu ce qu'on a vu précédemment. Qu'est-ce que c'est que croire en Jésus? Et puis, la Bible dit que si vous demeurez dans ma parole, donc tout d'abord, c'est demeurer dans la parole, croire, demeurer dans la parole, et ça nous amène à connaître la vérité. À force d'exercer sa foi, appuyée sur la parole de Dieu, de lire, méditer, etc., la parole de Dieu, on connaît la vérité. Ici, le mot, c'est expérimenter la vérité, ce qui nous amène à une vraie liberté, avec un grand tel. Même l'apôtre Paul, lorsqu'il était en prison, il jouissait d'une grande liberté intérieure, parce que ce n'était pas ses chaînes, les portes de la prison qui le rendaient captif. C'était tout simplement le fait qu'il était captif de Jésus-Christ, et dans cette captivité physique, il avait toute une liberté extraordinaire en Jésus. Alors, c'est le fait de connaître la parole de Dieu, de s'y attacher, qui nous fait connaître la vérité. Et la Bible est claire en parlant de vérité, parce que la Bible dit que Jésus-Christ est la vérité. Donc, la parole de Dieu nous pousse à connaître une personne, Jésus-Christ. La révélation de la parole de Dieu, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme, et on en parlera un petit peu plus loin. Et finalement, donc on connaît le libérateur, et on devient libre. Si donc le Fils vous a franchi, c'est ce que dit l'apôtre Jean verset 36, vous serez réellement libre. Alors on va tout d'abord dire que Jésus-Christ est la parole, qu'il est la vérité, et qu'ainsi, connaître la parole, connaître la vérité qui nous rend libres, c'est vraiment connaître, encore une fois le souligner, une personne, Jésus-Christ. La Bible dit en Jean, chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et au verset 14, il est écrit, la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous l'avons contemplée comme une gloire, la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ est la parole, et c'est le Logos, et au verset 1, on pourrait écrire, au commencement était Jésus-Christ, et Jésus-Christ était avec Dieu, et Jésus-Christ était Dieu. Il est la parole. Et en Jean, chapitre 1, verset 17, la Bible dit que Jésus-Christ est venu habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. Jésus-Christ est aussi la vérité. Il a dit, vous savez, en Jean 14, verset 6 également, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et en Jean 17, verset 17, Jésus a dit, « Ta parole, » il s'adressait à Dieu, la prière sacerdotale, « Ta parole est la vérité. » Il y a aussi ce que Jean mentionne dans son évangile de Jean, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est l'Esprit Saint que l'on reçoit, dont on est scellé le jour où on est régénéré. La Bible dit que le Saint-Esprit vient demeurer dans le corps du croyant, qui devient le temple de l'Esprit-Saint. Et c'est pour ça que Jean parle en Jean 14, 17, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, il demeure avec vous, il sera en vous. On était trompé peut-être par notre enfance, par des fausses religions, par des fausses valeurs, par des mensonges. Et Jésus est venu détruire les mensonges dans nos vies. Et la façon avec laquelle il veut nous dépouiller des mensonges, peut-être que l'on a subi ou que l'on a cru, c'est par la parole de vérité. Plus je m'instruis dans la parole, plus je connais Dieu, plus je connais son Fils Jésus-Christ, plus je deviens un homme libre. Amen. C'est extraordinaire de connaître la parole de Dieu. C'est pas une parole qui nous trompe, et je veux pas citer d'autres paroles soi-disant inspirées. C'est une parole véritable. C'est extraordinaire. Lorsque je lis ce livre et je l'ouvre, c'est Dieu qui me parle et c'est toute vérité. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, etc. Et chaque fois que je lis ce livre me parle parce qu'elle est pleine, elle est vérité absolue. Alors, de quoi avons-nous besoin d'être libérés? Mais dans le contexte ici, il est clair, lorsqu'on lit Jean chapitre 8, que les gens à qui Jésus s'adresse, ce sont des disciples, en quelque sorte. Dans une foule, il y a quelques personnes qui commencent à croire en lui. Donc, il les teste. Il leur dit ceci, et il dit aux Juifs qui avaient cru. Alors, c'est écrit aux Juifs. Pourquoi? Parce que peut-être sont-ils encore plus Juifs que croyants de la Nouvelle Alliance. Aux Juifs qui avaient cru. Alors, voilà le test. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et donc, vous ne serez plus esclaves du péché. Verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ces Juifs-là disaient, nous avons pour père Dieu. Nous avons comme modèle, comme père, Abraham. C'est vrai qu'Abraham, c'est le père de la foi. Et Jésus leur donne une parole très sévère. Au verset 44, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Parce qu'il ne s'est pas fié à l'apparence de ces gens-là ou de leur foi superficielle. Il est allé leur dire exactement ce qu'il y avait dans leur cœur, qui était finalement le meurtre, parce qu'ils étaient prêts à faire mourir Jésus, parce qu'il se faisait égal à Dieu le Père. Et ainsi, ce que Jésus veut montrer, c'est que si on croit en la parole de vérité, on va croire que Jésus-Christ est Dieu et on va dénoncer le diable comme le père du mensonge. Et par toute espèce de ruse, n'est-ce pas, Satan nous attaque et essaie de nous tromper. Il est l'usurpateur, il est le trompeur par excellence. Et il veut nous conduire dans des chemins d'erreur, d'égarement, de confusion, de mensonge. Et la façon avec laquelle Dieu rectifie nos vies, c'est de placer en nous toute la vérité, rien que la vérité de Christ. C'est pour ça que le psalmiste, notamment dans le psaume 119, disait « Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. » Psaume 119, 151 « Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. » Un peu plus loin, verset 160 « Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Donc le croyant est attaché à la parole de vérité. Et par l'Esprit Saint, il goûte à une liberté en communion avec Dieu, le Père, Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Paul dit en 2 Corinthiens, « Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Satan veut nous enchaîner, Satan veut nous rendre esclaves de la tentation, du péché, toute forme de mensonge, tandis que Jésus est venu libérer les captifs. Jésus est le libérateur. Et nous pouvons vivre maintenant libres, parce que Dieu déclare que nous sommes affranchis en Jésus. Alors, merci Seigneur pour la parole de Jésus. Mais, je fais un petit rappel, j'espère quand même aboutir au fond de mon, à la fin de mon message ce matin, un rappel de savoir ce qu'est la foi. Parce que, si on veut être affranchi, nous devons avoir la foi. Et la foi dans la parole. Alors, brièvement, d'où vient la foi? Je vous ai déjà mentionné cela. C'est un don de Dieu, c'est vrai, lié à la parole de Dieu. Elle vient de la parole. Je ne donne pas tous les versets ce matin. C'est la foi aussi qui s'appuie sur les prophéties accomplies et à venir. La parole de vérité. C'est une foi qui est aussi alimentée et qui se nourrit dans la prière, en communion avec Dieu. C'est aussi une foi qui grandit et qui vient par l'engagement, le ministère dans lequel on s'implique, notamment, je crois, dans l'église locale ou ailleurs. C'est parfois une foi qui vient dans l'épreuve. Dans l'épreuve, ben, on a plus tendance à se réfugier en Dieu, n'est-ce pas? Quand il y a un problème, on cherche la face de Dieu plus intimement et on dit « Pourquoi Seigneur ?» un peu comme Job. Et puis, on a les modèles de la foi. Des héros de la foi que l'on voit autant dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, au travers de l'histoire de l'Église. C'est pour ça qu'il faut lire des biographies d'hommes de foi et se réjouir de voir comment des hommes et des femmes de Dieu ont vécu par la foi pour honorer le Seigneur. Donc Dieu veut qu'on croie réellement. Et pour croire réellement, il faut demeurer dans la parole de Dieu. On a déjà vu ça ensemble, que demeurer dans la parole de Dieu Bon, j'ai fait un acrostiche avec méditer. Méditer, étudier, écouter, moduler, organiser, relire sans cesse, instruire les autres, souligner les passages clés, écrire la parole, réviser les notes. Peu importe la façon avec laquelle on peut l'exprimer. Mais est-ce qu'on connaît vraiment tout le conseil de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament? La Bible est comparée à une épée à double tranchant. Le tranchant, j'aime bien dire cela, de l'Ancien Testament et le tranchant du Nouveau Testament. C'est vrai que l'Ancien Testament nous parle plus de la loi, justement pour d'autant plus nous amener à la grâce du Nouveau Testament en Jésus-Christ. Mais dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'enseignements sur la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, le châtiment de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous passer de lire à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Expérimenter la vérité, connaître la vérité, c'est l'appliquer dans nos vies. Et on a déjà vu ensemble qu'on a différents domaines dans lesquels on peut appliquer la vérité. Ça commence dans la vie de famille, la vie de couple, la vie d'église, la vie sociale, où on est entouré de mille et une personnes. Et on a vu ensemble que Dieu, par les Écritures, nous dit exactement quel devrait être le comportement du mari et de la femme, quel est le comportement des parents vers les enfants et les enfants vers les parents. Dans l'Église, Dieu nous parle d'amour, de ministère, de koinonia, donc de communion, de soutien réciproque. Et dans notre vie publique, il est question de témoignage, de respect des autorités, d'un témoignage notamment au travail, dans les études, la façon dont on utilise notre temps, nos loisirs, notre argent. Et puis, notre vie peut être plus amicale, relationnelle, les fréquentations, voire la sexualité. Dieu, et ce n'est qu'une esquisse, on pourrait rajouter bien d'autres tranches, si vous voulez, de points de tarte, avec des paroles, des versets bibliques. Ce que j'ai voulu montrer ici, c'est que notre vie, si elle doit être centrée sur Jésus-Christ, elle va être automatiquement centrée sur la parole de Dieu. Quelqu'un qui se dit en communion avec Jésus et qui ne suit pas la parole de Dieu ou qui contredit la parole de Dieu, montre par là qu'il n'agit pas dans la vérité. On ne peut pas être en Christ, vivre la vérité de Christ et être dans l'erreur par rapport à la parole de Dieu. D'où la nécessité toujours de prendre le fil à plomb et de vérifier que nos comportements, nos pensées, n'est-ce pas, sont alignés avec la parole de Dieu. Alors, je vous ai fait un petit dessin, ça c'est nouveau. Et il y a longtemps que j'avais fait ce dessin. Bon, j'ai pas eu le temps de le mettre un peu plus au propre comme j'aurais aimé. Mais la Bible dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et Paul dit, si vous faites cela, comme moi je le fais, le Dieu de paix sera avec vous. Je dois dire que c'est un des versets qui me dérange le plus dans ma vie. Parce qu'il est dit que, aux frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, soit l'objet de vos pensées. Nous avons parfois des pensées qui partent à tous azimuts. Je suis heureux que tout le monde ne voit pas tout ce que je pense. Mais je sais que Dieu sait ce que je pense, et parfois j'en ai honte. La pensée est le siège d'un certain combat spirituel, et l'ennemi voudrait prendre, n'est-ce pas, ce terrain qui est notre esprit, notre intelligence, voire notre volonté, nos émotions, afin de dominer sur nous. Mais c'est l'inverse que nous devons vivre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc nous devons faire passer toutes nos pensées, et je vais ajouter nos désirs, nos sentiments, nos émotions, nos circonstances de vie, nos différentes connaissances ou informations ou éducations au travers du filtre de la parole de Dieu. Alors, excusez le schéma un petit peu maladroit, mais l'idée ici que j'ai voulu représenter, c'est que le croyant ne doit pas avoir une tête en forme d'entonnoir où il se remplit constamment de mille et une choses, parce qu'il a des pensées, des désirs, des sentiments, émotions, toutes sortes de choses qui viennent de l'intérieur et de l'extérieur, comme cela en étant passif, mais il doit veiller à filtrer tout cela par le système du filtrage biblique de la parole de Dieu. Alors, à la place des petites graines ici qui filtrent, vous voyez, le produit qui descend à l'entonnoir, vous pouvez mettre la parole de Dieu, et ainsi de voir si je suis vraiment au diapason avec la vérité de Dieu. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, ben, utiliser la valve de rejet pour rejeter, en fait, tout ce qui n'est pas de Dieu. Alors, ça demande un certain exercice de foi. Et je pense à ce verset qu'on utilise souvent, peut-être pas toujours dans le bon contexte, mais j'aimerais vous lire un verset qui est très puissant, sous la plume de l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, qui dit ceci: « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Dans l'évangélisation, Paul, dans son ministère, il était en contact avec toutes sortes de philosophies, de gens, n'est-ce pas, qui pensaient différemment de la parole de Dieu et qui étaient convaincus. Vous savez, être convaincu n'est pas toujours être dans la vérité. On a qu'à entendre parfois nos politiciens, comment ils sont convaincus avant les élections, mais comment après ils tiennent pas leurs promesses après leurs élections. Et c'est vrai tellement dans la vie des politiciens. Le mensonge, n'est-ce pas? Nous devons apprendre à amener les pensées qui sont contre Jésus-Christ dans ce monde, les fausses philosophies, les fausses religions, à la connaissance d'une personne de Jésus-Christ, à la connaissance de la parole de Dieu. Et la Bible dit, nous renversons les raisonnements tout hauteur. Et c'est vrai que des fois, lorsque nous parlons à des gens ou nous lisons, n'est-ce pas? Nous devons apprendre à nous défendre, ce qu'on appelle l'apologétique, de nous défendre notre foi face à l'incrédulité, aux faux raisonnements qui veulent entraîner le monde dans la perdition. Et on doit amener ces gens-là à considérer qui est Christ et à s'y soumettre. Mais c'est vrai aussi pour nos propres cœurs et nos propres pensées. Parce que la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. On ne pense pas toujours bien. On ne pense pas toujours correctement. Et on peut être même sincère, comme je dis parfois, et être sincèrement dans l'erreur sans le savoir. Mais on doit revenir toujours à ce livre et au travers des années de notre vie, suffisamment la connaître pour se référer à la foi dans la connaissance intellectuellement, le cœur, la volonté, à la vérité pour l'appliquer et nous y soumettre. C'est pour ça que le psalmiste notamment, et on pourrait lire de nombreux passages, le psalmiste disait « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Quand le péché ou la tentation vient, et qu'on sait que c'est un péché, on n'a pas besoin de penser à commencer à réfléchir « Est-ce que c'est un péché ?» Si Dieu déclare que c'est péché, et je ne dois pas avoir un faux raisonnement, dire « Oh oui, mais peut-être que… » Non, la Bible dit « c'est un péché ». Donc, je ne me soumets pas à la tentation, j'y résiste et j'abandonne le péché. Pourquoi j'ai parlé de la pensée? Parce que, regardez ce que dit un dicton. Sème une pensée, récolte un acte, récolte une habitude, sème un caractère. On est fait de ce que l'on pense. C'est pas agréable de penser ça, des fois, de savoir cela. Parce que si l'on est ce que l'on pense, et si ce qu'on pense n'est pas correct, ça veut dire qu'on n'est pas correct. Et donc, on doit s'humilier devant Dieu pour rectifier nos pensées. Donc, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Vous expérimenterez la vérité. Et le résultat, c'est que la vérité vous affranchira du lien, du mensonge du diable et de l'esclavage du péché. Alors, on va commencer par la vérité vous affranchira. Je me suis pas étendu là-dessus parce que ce serait tout un message et on a déjà vu ensemble, je sais pas si vous souvenez, toute une série sur les accès possibles aux dames. Mais la Bible dit que la vérité vous affranchira. Et quand on lit le contexte ici de Jean chapitre 8, Jésus veut les amener à s'affranchir du mensonge, des mensonges que les juifs pharisiens notamment croient et finalement de leur faire comprendre que les mensonges qu'ils vivent, sont d'origine diabolique. Quand on lit la parole de Dieu, tout d'un coup on est surpris de voir comment Dieu veut nous rectifier dans nos pensées. Et peut-être qu'il y a des terrains sur lesquels l'ennemi a quelques liens, quelques emprises, parce que ce terrain n'a pas été abandonné au Seigneur Jésus-Christ. Alors je ne parle pas notamment seulement de tentation peut-être, mais de choses dans lesquelles le diable maintient le croyant dans une espèce de lien, d'esclavage, voire peut-être de tourment. Et la Bible dit clairement que c'est par la l'épée de la parole de Dieu, n'est-ce pas, qu'on éteint les traits enflammés du malin, le bouclier de la foi, lié à la parole de Dieu, parce que la foi s'appuie sur la parole de Dieu. Et Jésus, en Matthieu 4, il est clair qu'il a vaincu le diable et fait face à la tentation en utilisant la parole de Dieu. Alors, notre libérateur Jésus-Christ nous libère lorsque nous demeurons dans la parole et lorsque nous avons foi en elle. Et il y a une œuvre qui s'accomplit dans nos vies. Et je pense qu'ici, il y aurait plusieurs d'entre nous qui pourraient donner l'expérience d'une délivrance particulière. On n'ose pas parfois trop parler de notre vie intime avec le Seigneur ou de nos combats personnels. Mais chacun de nous, si nous sommes des croyants véritables, on a connu des libérations parce qu'on était des captifs. On vivait dans les ténèbres, on a eu besoin d'apprendre la lumière pour sortir de notre ignorance spirituelle. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Deuxième affranchissement, c'est de l'esclavage du péché. L'homme a besoin d'être libéré du péché. Et la bonne nouvelle ici, c'est que Jésus nous a dit, dans l'épître aux Romains, au travers de Paul, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le rôle du diable, et d'ailleurs la Bible l'appelle l'accusateur, c'est d'accuser les frères jour et nuit. Et la Bible dit en 1 Jean chapitre 2 que Jésus-Christ est notre avocat qui plaide auprès du Père en notre faveur. C'est pas qu'on n'est pas coupable, mais on a un avocat qui plaide en notre faveur, parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais la bonne nouvelle, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, Jésus pardonne le péché. Mais non seulement on a besoin de se libérer en confessant, mais on a aussi besoin d'être libéré de la puissance du péché dans notre vie. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Là, vous êtes soumis à la loi de la pesanteur. Entre peut-être nos chers petits bébés, je ne sais pas, quelques kilos, et peut-être ceux qui sont proches de la centaine, je ne sais pas. Je ne vise personne. Vous savez votre poids. Plus les habits que vous avez, vous êtes soumis à la loi de la pesanteur. Vous êtes d'accord? Oui. C'est une loi, où que vous alliez, qui se répète. On peut aller sur la lune, la loi de la pesanteur diffère un petit peu, on se sent peut-être plus léger, mais la loi de la pesanteur est là. La loi de la pesanteur, c'est une loi permanente qui s'exerce sur notre corps. La loi du péché est une loi permanente aussi. Une grande désillusion par ignorance que l'on a lorsqu'on devient chrétien, c'est qu'on pense qu'une fois qu'on est chrétien, on devient, enfin c'était mon cas, excusez, je suis un peu perfectionniste, on devient parfait. Et donc on pense que on ne pêche plus. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes des croyants, mais on a encore des pécheurs. Et donc, on va pécher. Et c'est là où la grâce de Dieu intervient, parce que la Bible dit qu'on peut confesser son péché, en être purifié et retrouver la communion avec Dieu. On ne perd pas le salut en Jésus-Christ, mais on peut perdre la communion avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Alors, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit « La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ ». Demeurer dans la parole, c'est maintenant demeurer dans la vie de Jésus-Christ, dans la vérité de sa vie. Et par la puissance de sa vie, il y a comme une loi plus forte que la loi du péché, et de la mort, c'est la loi de la vie. Alors, illustration très limitée, excusez-moi, mais vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela. Quand on prend l'avion, est-ce que l'avion est soumis à la loi de la pesanteur? Ah oui, il y en a même qui s'écrasent. Hein. Est-ce que je suis soumis dans l'avion à la loi de la pesanteur? Oui. Et pourtant, je ne m'écrase pas. Et l'avion ne s'écrase pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance, les moteurs, et toutes les lois de l'aérodynamisme qui font calculer que l'avion fonctionne. Merci Stéphane, il travaille Airbus. Alors, l'avion fonctionne. Mais voyez-vous, il y a une nouvelle puissance dans l'avion. À terre, il est soumis à son poids propre, mais par une énergie nouvelle, il décolle, il atterrit, il vole dans l'air. On est toujours soumis à la pesanteur, mais on ne s'écrase pas, parce qu'il y a une puissance nouvelle qui fait que je suis dans les airs, et même protégé, et même je peux regarder par les hublots, bon, plus ou moins bien, on se comprend. Voyez-vous, c'est ça la loi de l'esprit de vie. C'est pas que Dieu m'enlève la loi du péché en moi. Je ne peux pas extraire ma nature adamique. Et la sanctification n'est pas l'extraction de la nature pécheresse, parce qu'on s'épuise avec ça et on n'arrive jamais, parce qu'on est pécheur. Et l'apôtre Paul disait, « Qui me délivrera de ce corps de péché ?» Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je veux. Qui me délivrera ? On est tous rendus là, non ? Mais il a découvert cette loi, cette nouvelle loi en Christ. Rempli de l'Esprit de Dieu, je ne suis plus soumis esclave à la loi du péché. Non seulement je ne pratique plus le péché, je ne le désire plus, mais je ne suis plus soumis à cette loi du péché comme une loi de pesanteur qui pèse fort dans ma vie, il faut dire. Je suis soumis à une nouvelle loi, qui est la loi de Christ, parce qu'il est ressuscité. C'est merveilleux, cela. Christ est ressuscité, et sa vie peut couler en moi. Comme disait l'apôtre Paul, j'étais crucifié à vie avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. C'est confirmé par deux passages que l'on trouve en Romains chapitre 6, verset 18, et Romains chapitre 6, verset 22, et souvent, quand je fais le maître et son disciple, c'était encore cette semaine, je dis à celui avec qui on étudie, le maître et son disciple, je dis, écoute, tôt ou tard, prends du temps à lire plusieurs fois d'affilée Romains chapitre 6, 7, 8. Romains chapitre 6, 7, 8. Lis-le au moins une fois par semaine pendant plusieurs semaines, ou peut-être chaque jour si tu veux. Romains chapitre 6, 7, 8. Parce que c'est la loi de la liberté. C'est notre nouvelle loi, c'est la loi de la sanctification par une nouvelle puissance qui est en nous, qui est Jésus-Christ. Mais il faut comprendre notre identification en Christ, en sa mort et sa résurrection, d'où la nécessité d'étudier, méditer Romains chapitre 6, 7, 8. Ayant été affranchis du péché, nous dit Paul, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc on passe de l'esclavage du péché à une autre forme de dépendance, mais heureuse, parce qu'on est volontaire à être esclave maintenant de Jésus-Christ, esclave de la justice, au verset 22, « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Il faut reconnaître, hein, comme disait Voltaire, je crois, « Chasser le naturel et il revient au galop. » Vous pouvez essayer de chasser la vieille nature, mais comme disait Calvin, quand on baptise les gens, c'est le symbole de noyer le vieil homme. Et il a dit un jour, le vieil homme, le coquin, il sait nager. Et c'est vrai que notre état pécheur veut s'alimenter et se nourrir. C'est pour ça qu'il faut jeûner dans ce domaine-là. Il ne faut pas alimenter notre chair pour pas être dominé par la chair, mais il faut demander au Seigneur de nous remplir de son esprit. Et c'est une pure grâce. C'est une pure grâce. Nous sommes sauvés par grâce et nous marchons par pure grâce, justement par la présence de Dieu. Alors, c'est illustré ici par ce dessin que j'ai trouvé sur Internet, la vie de Christ triomphe de la loi du péché et la mort. Il y a une transformation de vie attachée à la parole de Dieu, son cœur attaché à la parole de Dieu. Il y a une nouveauté de vie. C'est pas qu'on est meilleur que les autres. Mais le chrétien n'est pas meilleur que les autres. Il serait peut-être même pire, je pense, des fois. Mais il a une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Allez, une autre illustration, si ça veut bien marcher. Vivre sous la grâce. Je trouve que c'est une grande vérité que j'ai eu du mal, personnellement, et je voudrais vous encourager, si vous avez des difficultés aussi dans ce domaine, de comprendre ce qu'est la grâce. Tout est, on aime faire, hein. À un moment donné, quelqu'un s'est présenté devant Dieu. Jésus, il lui a dit, que faut-il faire pour faire, pour avoir la vie? Que faut-il faire? Et, Jésus a dit, mais il faut croire. Mais on a tendance à vouloir faire. Parce qu'on croit encore en soi. C'est terrible, hein. Alors que Dieu veut qu'on désespère de soi pour que lui nous remplisse. On croit encore qu'on est capable. Et c'est quand on est désespéré de soi que Dieu intervient. Parce qu'on devient humble et brisé. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Qu'est-ce que fait la loi dans ma vie? Me dit, tu es en train de pécher. Tu es en train d'être tenté. Tu es en train de vouloir déroger la loi. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras point, et tu aimeras ton Dieu tout ton cœur. Est-ce que c'est vrai tout le temps? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et toute la liste. La loi me condamne. Mais quand j'accepte Jésus, il y a une nouvelle loi dans ma vie, c'est la loi de la grâce. Dieu sait que je suis incapable de suivre les 10 commandements et tous les commandements de Dieu. Ça ne veut pas dire que je dois devenir passif et vivre dans le péché. C'est pas du tout ce que dit l'apôtre Paul, hein, loin de nous de vouloir vivre dans le péché. Que diderons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? L'idée n'est pas de vivre dans le péché, mais il n'empêche pas moins qu'on a besoin simplement de vivre dans la grâce. Bon, j'ai trouvé une illustration, je vous la laisse si elle apparaît. C'est la tentation peut-être liée à quelques mauvais esprits, n'est-ce pas? La colère, l'envie, l'immoralité, il y a bien d'autres. La Bible dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, l'épreuve, la tentation de sa chair. » Et cela est possible par la grâce de Dieu, parce que les yeux fixés sur le Seigneur, alors ces péchés naturels qui viennent de l'intérieur ou souffletés par l'ennemi, les mauvaises pensées qui peuvent venir, alors on se garde dans la grâce de Dieu qui est suffisante. Et dans l'épreuve, Paul a reçu une parole de Jésus-Christ qui console beaucoup de serviteurs ou d'enfants de Dieu. « Ma grâce te suffit ». Alors, si vous êtes éprouvé, si quelqu'un vient vous voir et vous dire que j'ai une parole de Dieu pour toi, « Ma grâce est suffisante », la grâce de Dieu est suffisante, allez-y avec tact. Parce que c'est une expérience personnelle à avoir, la grâce suffisante. Et on ne peut pas imposer à l'autre cette grâce. C'est seul Dieu qui la donne, comme un don immérité, la grâce suffisante. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Je n'ai pas le temps d'aller en détail avec ce petit dessin, mais vous voyez l'idée ici, couper avec une mauvaise habitude. La grâce est là aussi pour nous permettre de couper avec nos mauvaises habitudes. Alors j'ai marqué, je crois, quelques ordres chronologiques. C'est d'abord la reconnaître. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Il faut reconnaître nos erreurs. La confesser, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La haïr, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que j'ai. Réclamer la délivrance, garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Exercer un contrôle, l'Éternel met une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal et que je ne prenne aucune part à leur festin. L'abandonner, Esaïe 1.16, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. On a envie que ce message passe en ce moment, hein. Et puis demander de l'aide. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et puis persévérer. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Un rappel des promesses de Dieu. Premièrement, la Bible dit, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que vous êtes un affranchi du Seigneur? À quel point sommes-nous libres dans le Seigneur? Jésus a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et une merveilleuse promesse dit, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi et du péché de la mort. Et on comprend pourquoi Paul dit, soyez au contraire, ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis de l'esprit. Pour terminer, j'aimerais vous donner un défi et puis une image concernant la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. On le croit cela? Et si quelqu'un a des difficultés, eh bien, je crois que Christ veut intervenir, parfois avec les frères et sœurs, la prière, la délivrance. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Évidemment, ici, c'était en Galate, ne pas se mettre sous le joug de la loi juive, comme dans le passé, que les Juifs prennent toute liberté en Christ, et qui demeure dans cette nouvelle alliance par la grâce et non par la loi. Alors, pour terminer, j'aimerais vous donner une grande vérité pour cette année. Vous êtes d'accord avec moi? Paul était en prison. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Il n'y a pas une circonstance où le Seigneur Jésus ne puisse pas intervenir. Est-ce qu'on nous le croyons vraiment? Ou est-ce que nous doutons de l'amour de notre Père Céleste? Dieu veut intervenir. Il veut vraiment nous apprendre à vivre tout pleinement notre liberté en Christ. Amen. Prions, s'il vous plaît.